Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Frédéric. Bonjour.
Bonjour Yves.
Et donc, toi, tu es directeur gestionnaire de la SIC du nouveau monastère et vous êtes aussi dans la commission culturelle de cette structure. Et avec nous, par téléphone, nous sommes en compagnie de Maëlle Loquet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Maëlle, vous faites partie d'une formation, La Clanche, qui justement jouera prochainement le jeudi 20 août à partir de 20h. Ça sera un concert donc de chansons françaises engagées. Vous nous expliquerez en quoi est engagée cette formation, La Clanche. Et peut-être pour commencer, le nom de ce groupe, quelle signification a-t-il ?
La clanche, en fait, c'est une poignée de porte. Et donc, c'est un nom qui vient de Lorraine, il me semble. Et donc, comme on est un groupe de Nancy, c'était un petit clin d'œil aussi à mon nom de famille, Loquet. Enfin, bref, ça avait pas mal de résonance aussi. La clanche, ça ouvre et ça ferme des portes. Donc, c'était un petit peu cette idée-là.
Alors avec nous, Frédéric, cette saison continue hein, à l'ancien monastère, au nouveau monastère maintenant. On a toujours gardé un peu ce long, très long.
Oui, toujours. Oui. On a toujours gardé ce nom-là. Le nouveau monastère est vraiment le nom, on va dire, commercial de la société coopérative d'intérêt collectif. Et l'ancien monastère, c'est l'image que les gens en ont. Donc c'est vraiment un ancien monastère. Il n'y a plus rien de religieux. On est vraiment sur une structure laïque qui ouvre ses portes à la culture, d'où cette programmation culturelle qui est en place. C'est la 12e saison, je crois. Donc on est très heureux de continuer d'accueillir des personnes tant au niveau des expositions dont je parlerai tout à l'heure que des spectacles qui sont en cours, les 7 spectacles de l'année.
Effectivement, il y a encore 4 dates à venir, hein. La dernière étant celle du 9 au 11 octobre avec le Festiwild. Ça sera l'occasion de vous revoir ici pour en parler plus longuement. Alors, en parallèle de ces spectacles, ces concerts, il y a effectivement les arts plastiques, et notamment avec une exposition actuellement et peut-être d'autres à venir. On en parlera un peu plus longuement aussi. Et ce désir d'inviter Clanche, quel est l'importance que ça en revêt à vos yeux ?
Eh ben en fait, nous, au niveau de la programmation de la commission culture, on est à peu près 6 à 8 personnes. Donc on reçoit pas mal de propositions et notamment, si je ne me trompe pas, Maëlle, le groupe La Clanche, en fait, nous a été conseillé par des amis lyonnais qui sont venus plusieurs fois, qui se sont notamment qui ont fait un mariage au monastère et qui habitent de temps en temps sur Soue et qui nous ont dit il faut vraiment les écouter. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont envoyé un petit peu leurs propositions musicales et l'ensemble de la commission s'est dit c'est un peu différent de ce qu'on propose habituellement vu qu'on est très éclectique au niveau de la proposition. Et il suffisait de se caler sur une date et on s'est dit... vu qu'ils ont une petite tournée dans le secteur, on a compilé ça avec un concert dont Maëlle va parler aussi tout à l'heure. Mais donc c'est tombé là sur le mois d'août et on est très heureux de les accueillir. C'est une offre qu'on n'a pas eue encore musicalement.
Le concert de La Clanche, c'est aussi une formation avec combien de musiciens avec vous, Maëlle ?
Donc on sera 4. Il y a Nicolas Arnoux à l'accordéon, Mathieu Loigebois à la contrebasse, Christelle Guichou à la clarinette et puis moi je serai au chant, guitare, banjo. Et donc on est 4, on fait de la chanson qui s'inspire beaucoup de musique venue d'ailleurs. On fait du klezmer. Donc des musiques plutôt venues d'Europe centrale à l'origine, et puis des musiques aussi inspirées du jazz, tout ça. Et tout à l'heure, Yves, tu disais qu'on faisait des chansons engagées. Alors c'est sûr qu'elles sont... je pense que la musique, la chanson, tout ça, c'est De toute façon, c'est forcément engagé, mais c'est vrai que nous, on parle beaucoup dans les textes, ça parle beaucoup de petites gens qui font des grandes choses, en fait. On parle des gens de la vie de tous les jours qui vivent des choses parfois ordinaires et qui essayent de changer le monde à leur niveau, quoi.
Cette envie de vous réunir, vous quatre, dans cette formation, est partie de quelle envie précisément?
Eh ben, en fait, au départ, j'ai longtemps joué dans les années 2000 avec Mathieu Loigereau à la contrebasse. On faisait un petit duo, tout ça, toujours sur des compositions originales. Et puis, progressivement, le groupe s'est étoffé autour d'un projet d'album qui s'appelle Visance, qu'on a enregistré en 2024 en public à la MJC Lillebonne à Nancy. Et donc là, on est sur la tournée de cet album-là. On est allé en Loire-Atlantique, en Bretagne. On tourne beaucoup dans le Grand Est aussi, tout ça. Donc voilà, on est au départ, c'est des musiciens qui viennent vraiment d'horizons différents, parce que Christelle, la clarinettiste, elle est à la fois, elle a un gros niveau en classique, mais elle est aussi très très forte en klezmer, tout ça. Donc elle a vraiment un large éventail à son jeu. Mathieu Loigereau à la contrebasse, il vient plutôt du milieu du jazz, mais il fait aussi de la chanson. Et puis Nicolas Arnoux, pareil, il vient des musiques improvisées à l'accordéon, tout ça, mais il apporte vraiment une vraie touche dans les arrangements, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, on a progressivement appris à se connaître. C'est un groupe qui est à la fois très très exigeant sur ce qu'il propose, et puis à la fois, on est devenu vraiment une bande d'amis, et c'est vraiment très très agréable de jouer dans ce groupe.
Des textes, il y en a. Qui se charge de l'écriture? Est-ce que chacun amène sa touche dans la création de cette formation?
Moi, disons que c'est vrai que progressivement, je pense que l'éventail va s'élargir, mais pour l'instant, ouais, c'est moi qui ai écrit tous les textes, et puis les musiques aussi, jusqu'à maintenant, mais dans le prochain album, petit à petit, on va un tout petit peu élargir, parce que c'est vrai chacun contribue beaucoup, notamment sur la partie musicale. Vraiment, ils apportent on va dire, le meilleur d'eux-mêmes, tout ça. Mais c'est vrai que sur les textes, pour l'instant, c'est moi qui ai écrit toutes les chansons.
Et quant au registre, il est plutôt éclectique. Vous parlez de musique du peuple, en quelque sorte, au-delà de peut-être de ses
On est,
voyages
oui.
aussi, de ses prises
Oui,
de
on a.
connaissances.
On a des musiques qui s'inspirent de la bossa nova, du jazz, du swing. Des musiques klezmer, donc qui sont les origines, enfin qui trouvent leurs origines dans les musiques juives d'Europe de l'Est. Et puis dans les textes, c'est vrai que c'est assez éclectique aussi. Il y a des choses assez engagées, puis des choses beaucoup plus légères, tout ça. Donc voilà, c'est des chansons qui, je pense, parlent un petit peu à tout le monde, parce que moi, j'aime bien les chansons qui parlent de la vraie vie, et pas forcément des chansons qui dénoncent directement, mais plus qui parlent de ce que vivent tout simplement les gens. Et parfois, les gens sont amenés à vivre des choses impossibles.
Alors, avant de continuer, nous pourrions peut-être écouter un premier extrait.
La chanson Byzance, justement, c'est une chanson qui a donné son titre à l'album, et qui est écrite à partir d'un classique klezmer. Et donc, c'est l'histoire de Asli Erdogan, qui est une écrivain et poète turque, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le bâtiment de pierre. Et quelques semaines ou mois après l'avoir écrit, en fait, elle s'est retrouvée emprisonnée dans ce fameux bâtiment de pierre, dans la prison d'Istanbul. Et voilà, c'est une chanson en hommage aux gens qui, ben, souffrent dans des régimes, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils défendent une certaine liberté d'expression, sont emprisonnés.
Écoutons Byzance, on se retrouve aussitôt après.
Erdogan, à l'ombre d'Erdogan, pas de fleurs, pas de peau, pas d'orchestre tzigane, j'en appelle à l'oiseau, non c'est pas une vanne, SOS artiste en cabane. Asli Erdogan, la romancière, c'est l'histoire d'un bâtiment de pierre, mais au bout d'un moment, ce n'est plus un roman, Asli est vraiment prisonnière. Drôle de romance, ce n'est pas Byzance, ce qui se passe dans ce roman. Drôle de romance, ce n'est pas Byzance, non mais ça se passe vraiment. Erdogan, à l'ombre d'Erdogan, une ombre au tableau sur les marches de Cannes. J'en appelle à l'oiseau, allô, l'outline. Attention, trois borderline. Au poète en cabane, à l'ombre d'Erdogan, roi mégalomane, fossoyeur d'oiseaux, allô, l'outline. Allez, tous en cœur avec l'oiseau. Assassino! Pas Byzance, ce qui se passe dans ce roman. Drôle de romance, ce n'est pas Byzance, non mais ça se passe vraiment. C'est pas Byzance, mais c'est pas si loin de la France.
Frédéric, il y a donc ce concert, mais d'autres suivront. Peut-on parler un peu?
Oui, alors déjà pour ce concert, pour revenir sur la clanche, nous on a été très séduits par les paroles justement, c'est quelque chose qui nous a tout de suite parlé, qui a résonné par rapport à notre projet, à ce qui se passe aussi au niveau de la coopérative. Donc le concert, donc il a bien le jeudi soir à 20h, quelle que soit la météo. On a prévu un rapatriement à l'intérieur si jamais la météo s'annonce. On n'a pas eu de pluie, mais là, il annonce peut-être un peu de pluie jeudi. Et quelque part, c'est bienvenu qu'il y ait de la pluie pour nous. Donc, ce sera peut-être moins évident pour le groupe La Clanche. Mais on a une salle qui permet d'accueillir tout le monde. On arrive à peu près à la mi-saison culturelle avec le groupe La Clanche. Après, on a encore plusieurs dates qui sont programmées. Hein. On a notamment le 13 septembre, un groupe afro qui vient, N'Bayan. Voilà. Après, on a du 9 au 11 octobre, on a le Festiwild, mais ça, je viendrai sûrement en reparler parce que c'est en train de. Voilà, la programmation est sortie, les réservations en ligne sont sorties. Donc là, c'est un gros événement avec à la fois du spectacle, il y a du concert, il y a des expos, il y a des tables rondes sur le lien de l'humain au sauvage, hein, à la nature. Et puis, normalement, on va terminer la saison avec Echo la Primavera. Un trio de chanteuses musique médiévale qui aura lieu le 4 novembre. Voilà. Et ces concerts s'associent à à des résidences artistiques. Et notamment, le dernier spectacle qu'on a eu, c'était le Papageno, c'était l'opéra qui avait eu lieu suite à une résidence et qui avait accueilli près de 300 personnes. Donc c'était un beau moment aussi à partager. Et à côté de ça, bah, on a quatre expositions en ce moment hein, sur le lieu. On a une exposition de Nelly Geza qui est suisse et qui expose des peintures et des sculptures. C'est de toute beauté, c'est vraiment à voir jusqu'à la fin du mois. Et elle sera présente d'ailleurs les trois derniers jours de l'exposition, les trois derniers jours d'août, voilà, sur le lieu. Et dans le parc, pour les gens qui ont envie de se promener, on a le jardin ethnobotanique hein, qui est en souffrance avec la canicule, mais qui est présent avec près de 280 variétés de plantes. Et on a une exposition d'Olivier Nil, qui nous vient de Penlesec, et des structures métalliques, des détournements d'objets agricoles. Voilà. On a une exposition de photos de Denis Moplot, qui va jusqu'à fin septembre, une mosaïque de photos, avec une deuxième expo qui se trouve chez Achard Vincent.
Voilà. Que j'avais reçu aussi au printemps expo.
Voilà, tout à fait. Et on a une dernière expo là, qui est en permanence maintenant dans le parc, qui est la poésie menuisière par Roland Dehon. Il a mis des petites portes au pied des arbres dans le parc du monastère, donc à découvrir. C'est en accès libre. Voilà, donc vous êtes les bienvenus en profitant de l'espace boutique et de la buvette du monastère qui vous attend avec des boissons fraîches, des infusions glacées canicules. Voilà, des sorbets paysans, des choses comme ça.
Maëlle, cette formation, chacun s'est enrichi personnellement de son art, d'être musicien, peut-être aussi conteur, compositeur. Qu'est-ce qui prévaut dans votre formation, dans ce que vous proposez au public?
Bah en fait, c'est à chaque fois qu'on joue quelque part, c'est vraiment des vrais moments de partage, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on tient, à laquelle on tient. C'est que voilà, je crois que tous les membres du groupe défendent ce répertoire-là avec vraiment avec beaucoup d'énergie, d'envie et de joie, je dirais. Et l'idée c'est de partager avec les gens un moment qui ait du sens. Autour de textes qui sont vraiment construits sur l'idée que avec des questions toutes simples, comment on avance dans un monde qui fonctionnerait mieux, mais voilà, en parlant en fait de ce que vivent très concrètement les gens. Et puis du coup, ouais, tout le monde adhère un petit peu à ce répertoire là au texte et apporte comme tout le monde vient d'univers musicaux assez différents. Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et c'est vrai que c'est là on vient en formation à quatre et il n'y a pas un musicien en trop, quoi. Il faudrait pas que on ait vraiment c'est une formation qui fonctionne très très bien. Chaque instrument a vraiment sa place. C'est des musiciens qui ont beaucoup d'expérience et qui c'est pour ça aussi que c'est très très agréable de jouer avec eux. C'est que chacun amène vraiment la petite touche qui donne un vrai plus dans l'arrangement à chaque musique, et ça, c'est à chaque fois c'est vraiment au service du texte, au service de l'idée de la chanson, quoi.
Et le contexte n'est pas facile actuellement hein, pour les intermittents et les artistes. Vous le ressentez certainement. Est-ce que c'est un sentiment partagé avec l'ensemble de la formation? Et c'est peut-être aussi l'intérêt pour vous d'être assez polyvalent et de peut-être intervenir avec d'autres formations ou d'autres projets musicaux.
Ouais, tout le monde dans le groupe a différents projets justement parce que voilà, ils sont professionnels et intermittents. Et sinon sur le groupe, c'est vrai que l'idée c'est aussi de faire des spectacles dans différents lieux. On va on peut très bien aller dans des granges, jouer dans des fermes, jouer chez l'habitant, tout ça pour justement faire vivre ce répertoire-là, faire vivre générer des cachets à chaque spectacle l'idée c'est que les musiques plaisent, les chansons plaisent et que du coup il y ait du monde. C'est vrai que partout où on passe on fait le plein, et du coup c'est comme ça qu'on fait des cachets aux musiciens.
cette organisation, comme beaucoup d'autres, comme la SCI Nouveau Monastère, ce sont des petits lieux hein, de prestations, de spectacles. Est-ce que, à votre avis, Maël, il y a un développement de plus en plus évident, surtout au milieu rural, par exemple, de ces petits festivals ou de ces soirées organisées par des associations? C'est un peu, en quelque sorte, une réaction par rapport aussi à cette crise, notamment avec les grands groupes organisateurs de spectacles qui détruisent un peu le marché d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Là, l'idée, c'est vraiment ça va dans le sens des chansons qu'on défend, c'est de faire de la musique vivante avec les gens des territoires. Et que effectivement, ces festivals-là, quand ils sont organisés par les gens des territoires, on joue à Valmaravel, qui est également un petit festival rural le 21 août. Et du coup, c'est vrai que l'idée, et on fait beaucoup ça, on va vraiment dans des lieux qui sont construits avec les gens des territoires, et ça, enfin, on essaye d'être cohérent à la fois dans les textes, dans ce qui est proposé dans les chansons qu'on défend et puis dans ce qu'on essaye de vivre voilà, au quotidien, quoi.
Les textes donc, sont en quelque sorte un certain reflet de vos vies ou alors c'est plus un regard sur le monde ?
Ouais, c'est dans l'album qu'on présente là, toute la tournée Byzance, c'est beaucoup des portraits. En fait, on est beaucoup sur la présentation finalement de portraits de personnes, un grand-père qui fauche et puis qui nous emmène tout de suite sur la question de la vie, de la mort, etc. C'est des portraits de personnes. À un moment donné, il y a un maçon qui est sur les chantiers. Donc on parle de la vraie vie des vrais gens, quoi, en fait. Et c'est ça qui fait un petit peu, je pense, la force du répertoire et des chansons, parce que ça parle pas que de ce qu'ils vivent eux, quoi. Ça parle finalement de la vie, de la mort, mais aussi de la politique, de beaucoup de choses.
Est-ce qu'il existe d'ailleurs dans vos concerts un échange avec le public entre deux morceaux, par exemple ?
Ça peut. Mais c'est vrai qu'on réserve surtout ce temps-là dans l'après-concert ou dans l'avant-concert, comme on joue beaucoup dans des lieux justement de partage. Le concert est une occasion de partage. C'est l'occasion. À la suite des chansons de partager. C'est sûr que les gens souvent découvrent le répertoire, donc les premières fois qu'on écoute une chanson, on saisit une ambiance, quelque chose, et donc il y a souvent des partages en fait à la fin des concerts sur parce que ça touche les gens sur ce qu'ils vivent, quoi, en fait.
La Clanche est originaire de Nancy, enfin en tout cas de
oui,
Lorraine. C'est une ville moyenne, Nancy. Est-ce qu'il y a un grand développement culturel, musical aussi? Est-ce que tout va pour le mieux ou alors il y a de moins en moins de facilité pour ces concerts?
Ouais. Bon, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est sûr que Nancy, c'est vraiment une ville qui a été portée par l'école de musique MAI là, de Nancy. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de très bons musiciens. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui existent, soit sur le Grand Nancy, soit dans les environs, la campagne. Nous, on tourne beaucoup autour du réseau de la MJC Lillebonne, qui a aussi une importance pour moi vraiment considérable sur Nancy, parce que c'est une MJC comme beaucoup d'autres MJC d'ailleurs sur la ville de Nancy, qui a accueilli beaucoup de musiciens, beaucoup de styles de musique différents, des musiques improvisées. Là, il va y avoir un festival de musique cigane, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et enfin, moi, je défends vraiment beaucoup cette MJC-là et tout le réseau de musiciens et le réseau aussi de gens qui gravitent autour, parce que du coup, il y a beaucoup de concerts qui sont programmés tout au long de l'année et qui donnent vie, en fait, qui donnent vie à la ville, quoi.
Et vous-même avez un site internet pour promouvoir?
Oui, tout à fait. Le site internet, c'est laclanche.org, clanche avec un E. Hein, donc laclanche, tout attaché, .org. Et donc, voilà, sur le site, on a fait des clips, il y a des petites vidéos, des petits extraits de concerts. J'ai mis aussi toutes les paroles et toutes les partitions, parce que c'est important aussi de partager les chansons. Parfois, on me dit, tiens, j'ai appris tel titre et tout. Voilà, c'est aussi ça le partage. Les partitions sont en partage libre.
Vous parliez aussi de ce MJC. Est-ce que c'est aussi un lieu de transmission pour les générations?
Oui, tout à fait. Autour de cet MJC-là, il y a beaucoup de choses. Notre clarinettiste, Christelle Guichot, elle est prof de clarinette dans la MJC. Elle dirige aussi une fanfare qui s'appelle La Fanfaronne. Nicolas Arnoux, il a longtemps dirigé autour de la MJC aussi un projet qui s'appelle Les Enfants du Boucher, et qui est une fanfare qui mêle amateurs et professionnels, et qui propose des spectacles, notamment quand il y a le Saint-Nicolas. Hein, c'est la tradition à Nancy autour au mois de décembre. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se trament entre professionnels, non professionnels, entre jeunes et moins jeunes, tout ça. Et donc, oui, c'est un vrai lieu de transmission.
Avant de nous quitter, on va peut-être, je vais vous demander de présenter le morceau qui finira cette émission, le deuxième morceau donc qui s'intitule.
Donc le deuxième morceau, il s'appelle Hubert. Hein, c'est un petit clin d'œil autour d'un personnage qui est livreur, tout ça. Mais plus largement, c'est aussi, voilà, je sais pas, un tableau de ce que devient la société d'ubérisation, quoi.
Eh bien, nous allons nous quitter. Enfin, Maëlle, si vous voulez arrêter maintenant, vous pouvez partir. Je vais continuer un petit peu avec Frédéric pour quelques petites informations sur le nouveau monastère.
Je vais y aller, je déménage ma fille, comme je le
Oui.
disais à Frédéric tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, hein, pour cette interview, tout ça, pour ce temps-là. Et puis, on se voit peut-être bientôt.
Très bien, bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Frédéric, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a peut-être quelques rappels sur cette organisation qui est l'Elastique Nouveau Monastère? Parce que justement, c'est une nouvelle appellation qui a été décidée au sein d'une assemblée générale, j'imagine.
Disons que la SIC Nouveau Monastère existe depuis 2015, depuis notre changement de statut d'association à société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'était aussi de montrer que à travers cet outil de territoire et ce statut coopératif, on allait vers quelque chose de nouveau, et c'était le nouveau monastère avec la mise en place de la culture, des jardins, du bien-être, de la sauvegarde du patrimoine. Donc voilà, il y avait un petit peu ce petit clin d'œil à donner, comme quoi on allait vers des choses nouvelles, notamment avec pas mal de projets autour de la végétalisation, autour de la gestion de l'eau, de l'éco-pastoralisme, tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui avancent sur le projet. Et le nouveau monastère, voilà, prend toute sa place et son nom, voilà, dans ce cadre-là.
Actuellement, vous semblez être sur le haut de la vague.
Alors, le haut de la vague, c'est un petit peu difficile de le voir comme ça après le mois de juillet qu'on a passé et ce qu'on a vécu sur le Diois avec les incendies. Hein. Donc nous, on a été pas impacté physiquement ni structurellement par le feu, par l'incendie, mais par contre, on a été impacté vu que l'incendie était en gros à vol d'oiseau à 180 mètres, et du coup, ça nous a imposé de fermer le lieu pendant une semaine au mois de juillet, voilà, qui a des conséquences économiques qui sont assez importantes. D'ailleurs, on a fait paraître un emailing, une newsletter, une lettre d'information concernant ce point-là, où on explique un petit peu tous les détails de cette fermeture et de l'impact de cet incendie. Malgré tout, on est resté mobilisé parce qu'on a beaucoup œuvré, notamment avec l'équipe des salariés qui ont donné du temps bénévole pour faire plus de 2000 repas au niveau des pompiers. Donc notamment, donc ça c'est quelque chose qui était chouette à vivre dans le sens du partage et de l'investissement. Mais effectivement, on a voilà, la situation est un peu compliquée économiquement. Les gens sont revenus, donc on a pu redémarrer. La culture redémarre aussi. Donc on sent que, voilà, si la météo joue, on espère que l'arrière-saison sera propice et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises d'ici là. Voilà. Mais donc il y a un article aussi qui va apparaître dans le Petit Diwa et dans le Dauphiné Libéré qui va expliquer un petit peu la situation où on fait un appel solidaire justement suite à ça pour pouvoir continuer à accueillir de la culture, accueillir des groupes. Et faire vivre ce lieu, créer de l'emploi, faire travailler les producteurs.
Cette information, on peut la trouver sur votre site également ?
Alors, elle va être en ligne à partir de la semaine prochaine, à partir du moment où les articles, il y a une communication commune qui va sortir, où on interpelle aussi les élus, on interpelle voilà, les habitants, interpelle tous les gens qui sont concernés par ce lieu et qui ont envie que ce lieu dure et que voilà, et on va sûrement aussi avoir des tables de réflexion sur le devenir de ce projet et comment on travaille ensemble avec les producteurs, avec les gens du territoire pour que voilà, on se prémunisse de ça et qu'on se protège d'aventures nouvelles qui risquent de nous arriver très souvent malheureusement. Je vous invite juste à venir jeudi. Il y a déjà pas mal de réservations. Pendant que Maëlle parlait, je jette un petit coup d'œil sur la météo. Je vois que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, apparemment, on risque de rabattre ça sur la salle intérieure. Donc, on va limiter sûrement à une grosse centaine de places. On a à peu près une soixantaine de réservations déjà. Donc, les gens qui sont intéressés, il y a deux possibilités. Par téléphone, 04 75 21 22 06. C'est la ligne directe du monastère. Vous laissez un message, votre nom, votre prénom, le nombre de places. Et sinon, par mail aussi, vous pouvez le faire à contact@le-monastere.org. Et pour rappel, donc la billetterie ouvre à 19h. Vous avez les expos à voir, une buvette, une boutique. Et le prix d'entrée est à 15€. Et à 9 euros en tarif réduit pour les demandeurs d'emploi et les gens qui sont sur le site même, vu qu'on a un stage de danse qui a lieu, qui démarre aujourd'hui, là, et dont une sortie chorégraphique aura lieu dimanche. Et ça, vous verrez au niveau des affichages sur l'Instagram, sur le site internet le-monastère.org, la page Instagram de l'ancien monastère. Toutes ces infos sont mises au niveau de la clanche et au niveau de la sortie chorégraphique de l'école Chantraine, qui est assez remarquable et qui a lieu dimanche à 18h, et c'est gratuit.
Eh bien, Frédéric, merci beaucoup d'être venu sur Air Diwa pour nous parler de cette fin de saison culturelle 2026 au nouveau monastère Sainte-Croix.
Merci.
Et nous quittons donc avec un morceau de La Clanche.
Merci Yves, à bientôt, on se revoit pour le festival.
Bonne soirée.
Hubert est un type super sympa, 4 étoiles pour le sourire, scoopant 4 portes mes cabas jusqu'à la porte de chez moi. Hubert est sociable et marrant, ponctuel, y a rien à dire, propre sur lui, prévenant, je le recommande vivement. Hubert est sympa, mais quand même, ça laisse à désirer son déguisement de bohème. Ça me fait délirer, il rechigne à faire le détour. Il soupire pour un rien, ce typo, toujours le détour. Mais je mets une étoile en moins. Pour un petit tour, aller-retour et son détour à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Hubert est toujours là. Pour un petit tour, aller-retour et son détour à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Tu bipes et le voilà. Hubert a perdu son boulot, il raconte ses malheurs. On s'y perd, il parle trop, il traîne, je regarde l'heure. Hubert a 3 fois mon salaire pour une course du même acabit. Je ne vais pas me laisser faire une seule étoile aujourd'hui. Ça fait 3 heures que j'attends, Hubert est en retard, je pèse, je me fais du mauvais sang. Je vais louper mon rencard. Ah tiens, quand on parle du loup, qui sait que v'là sur son biclou. Pour un petit tour, aller-retour et sans détour à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Hubert est toujours là. Pour un petit tour, aller-retour et sans détour à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Tu bipes et le voilà. que j'attends sur la place. Je n'ai plus de credo, j'aperçois un type dans la glace qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Je ne sais plus comment je m'appelle, je déraille du ciboulot. Robert Laclanche, Bob ou Maël, cet Hubert aura eu ma peau. Pour un petit tour, aller-retour et sans détour, à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour. Hubert est toujours là. Pour un petit tour, aller-retour et sans détour, à tour de bras, il te fait tourner la tête la nuit, le jour.